Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Augmenter ou pas le nombre de vaccins obligatoires? À cette question délicate, le gouvernement va devoir répondre et y répondre rapidement. D'ici quelques semaines, promet la ministre de la Santé, Marisol Touraine, une récente décision du Conseil d'État l'y oblige. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 3 vaccins sont obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, des maladies traitées simultanément dans une même injection par le DT-polio. Problème, celui-ci n'est plus proposé seul depuis 2008. Les vaccins commercialisés traitent en même temps d'autres pathologies telles que la coqueluche ou l'hépatite B. Le Conseil d'État demande au gouvernement d'y remédier dans les 6 mois. Les laboratoires n'étant, semble-t-il, pas en mesure de s'y conformer, une augmentation du nombre de vaccins obligatoires pourrait être décidée. Alors voilà qui ne va pas contribuer à apaiser ceux, de plus en plus nombreux, semble-t-il, qui expriment leur défiance à l'égard soit de la vaccination en général, soit de certains vaccins en particulier. D'autant que les rares débats sur ce sujet tournent le plus souvent au dialogue de sourds. Alors la vaccination, ça ne se discute pas. C'est une question que nous allons poser à 3 invités ce soir, question qui nous a été inspirée par des propos attribués à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. La vaccination, ça ne se discute pas, c'est ce qu'elle avait dit en mai 2015. Et pour débattre de ce sujet, Anne-Marie Moulin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin et philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez été membre du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination qui avait été mise en place en février dernier et qui a rendu son rapport il y a quelques semaines de cela. Et vous avez publié en 1996 chez Fayard « L'aventure de la vaccination ». Pour discuter avec vous, Michèle Rivasi, bonsoir.
Bonsoir.
Députée européenne, Europe Écologie. Les Verts, c'est votre parti. Vous êtes professeur en biologie, spécialiste des questions de santé publique. Vous avez publié au Petit Matin, aux éditions des Petits Matins en 2015, le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir. Les laboratoires pharmaceutiques, ce sera sans doute un des sujets de notre discussion de ce soir. Et puis, troisième invité, il est en duplex de France Bleu Mayenne à Laval, c'est Jocelyn Rode. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Vous êtes sociologue, chercheur en santé publique, maître de conférence à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique. Alors avant d'aller vraiment dans le cœur de notre discussion de ce soir, à savoir est-ce qu'il y a vraiment un débat impossible et si on débat de la vaccination et des vaccins, de quel sujet précisément pourrait-on débattre aujourd'hui? Je voudrais peut-être d'abord en guise de préambule rappeler, et je pense que vous serez sans doute d'accord les uns et les autres pour le dire, en quoi la vaccination a quand même constitué un progrès important, j'allais dire pour la médecine, mais juste avant d'entrer en studio, Anne-Marie Moulin, vous me disiez avant tout pour la santé.
Oui, bien sûr, pour la santé. On peut considérer qu'aujourd'hui, le vaccin, la vaccination a eu des grands succès. Par exemple, et c'est d'ailleurs une des raisons des difficultés actuelles, c'est que plus personne n'a le souvenir qui était encore présent dans mon enfance de la poliomyélite. Dans nos classes, il y avait des enfants avec qui boitaient avec une jambe plus courte que l'autre. C'était un cauchemar, le cauchemar de l'été, des piscines. Et cette maladie a disparu, ce qui explique en partie l'étonnement des gens de se voir vacciner contre une maladie qui pour eux n'existe plus.
Donc il peut y avoir une forme d'efficacité qui jouerait contre les vaccins, en tout cas sur ce que cela a pu représenter au XXe siècle. Est-ce que ça représente encore dans certaines parties du monde, Michèle Rivasi, puisque si on en croit les chiffres de l'OMS, la vaccination permettrait de sauver entre 2 et 3 millions de vies chaque année. Est-ce que ça, il faut le rappeler d'abord en guise de préalable?
Moi, je veux bien le rappeler, mais je voudrais l'associer quand même à l'hygiène de vie. Parce que quand on regarde les chiffres, en fait, on a diminué justement les maladies infectieuses grâce à la vaccination. Mais de façon concomitante, c'était parce qu'on a amélioré nos conditions de vie et d'hygiène. Et je vais souvent en Afrique, effectivement, on vaccine, mais comme on ne modifie pas la problématique de l'eau, il n'y a pas d'eau potable forcément pour des populations, il n'y a pas d'assainissement, etc., il faut revacciner et revacciner. Et là, après, on se retrouve avec des effets secondaires et en fait, on ne résout pas le problème. Nous, on a pu le résoudre parce qu'il y a eu véritablement une amélioration. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Le vaccin, ce n'est pas la solution miracle. C'est une solution qui répond à des épidémies Et c'est d'un point de vue stratège très intéressant, la vaccination. Mais depuis les années 80, on a utilisé la vaccination comme si ça allait répondre à toutes les maladies. Et là, les laboratoires pharmaceutiques étaient derrière.
Alors, Jocelyn Roth, vous qui avez étudié la façon dont la vaccination est acceptée ou pas au sein de la population, et ce soir, on va notamment parler du cas de la France. Michel Rivasi évoquait les années 80 où il y aurait peut-être eu un changement d'attitude, en tout cas dans la façon dont on vend la vaccination. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on pourrait dater une forme de montée de la défiance par rapport au vaccin ?
Alors non, en fait, pas du tout. Hein. On a des études qui remontent à quelques vingtaines d'années maintenant. En fait, on a suivi tous les 5 ans grâce à des baromètres, notamment des baromètres faits par l'INPES, l'Institut National de la Prévention, Éducation et la Santé, qui nous ont permis d'avoir une image assez claire, hein, des attitudes vis-à-vis de la vaccination. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que, en gros, jusqu'en 2005, il y avait moins de 10% des Français qui exprimaient des réticences par rapport à la vaccination. Et en fait, c'est plutôt beaucoup plus tard, c'est au moment de la grande campagne de vaccination contre la grippe H1N1, qu'on va observer un basculement dans l'opinion publique par rapport aux questions vaccinales. Donc en fait, c'est plutôt un phénomène récent. Et en plus, je reviendrai, c'est plutôt une spécificité française, puisque quand on regarde les choses de manière comparative, on s'aperçoit que les données sont très différentes en France par rapport à celles qui ont été observées dans d'autres pays comparables, comme le Canada, l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple.
Oui, parce qu'il y a eu une étude qui a été menée et qui fait de la France et des Français les recordman du monde de la défiance par rapport au vaccin. 41% des Français qui estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. Anne-Marie Moulin, vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu ?
Oui, je réagis à ce que dit Jocelyn parce que je pense qu'en fait l'hésitation remonte à plus loin. En 96, j'avais écrit un article où je disais c'est peut-être la fin de l'exception française. Je veux dire que j'avais senti un frémissement. Et je pense que ce frémissement, il a été consécutif au problème autour du vaccin contre l'hépatite B. Pour la première fois, ce vaccin contre une maladie abstraite qui ne représentait pas grand-chose, surtout par rapport à des jeunes enfants, a donné à penser à l'opinion publique.
Parce qu'il y a eu des cas de sclérose en plaques qui ont été attribués à ce vaccin contre l'hépatite B, c'est bien ça ? Dans les années 90.
Il y a eu cela, et il y a eu aussi le fait que l'hépatite B n'était pas une maladie qui avait une image. Une hépatite B, pourquoi on est pour le vaccin contre l'hépatite B ? C'est en particulier dans le tiers-monde dont vous parliez, parce que cela fait le lit du cancer, de la cirrhose et du cancer du foie, qui est une réalité au Sénégal et en Égypte et dans beaucoup de pays d'Afrique. Et pour ça, cette maladie n'existait pas pour les Français. En revanche, la sclérose en plaques était pour eux une réalité très proche, c'est une maladie fréquente. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience qui ne s'est pas forcément traduite dans les prises de position officielles récupérées par les enquêtes des sociologues.
Michel Rivasi.
Oui, je voudrais dire, mais c'est pas incompatible. Je disais qu'il y avait eu une promotion dans les années 80 vis-à-vis des labos qui disaient la vaccination va répondre à tout. Mais la défiance des Français... Les Français ont été quand même traumatisés par plusieurs choses. Il y a eu l'histoire du sang contaminé. Vous voyez, la défiance vis-à-vis des autorités sanitaires. Après, on a eu le problème de l'hépatite B. Moi, je l'avais vécu parce que j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque, de 99 à 97 à 2002. Et là, vous savez, on avait plus ou moins obligé nos jeunes à se faire vacciner quand ils étaient dans les collèges. Et là, il y a eu quelques remontées de gens qui ont eu des scléroses en plaques, dont certains ont été reconnus. Après, il y avait le syndrome de Guillain-Barré. Et puis après, ce scandale de la grippe H1N1, je peux vous dire que ça a été quand même typiquement français. Avoir acheté 94 millions de doses, avoir dépensé plus de 2,2 milliards, alors que dans l'hémisphère sud, on savait que c'était pas une grippe énorme et que certains même avaient parlé de grippette, quand on pense au professeur Gentilini et au professeur Debré, et que là, il y a eu un alarmisme qui n'a pas été dû aux Français, qui a été dû à la ministre. Madame Bachelot, à l'époque, était ministre de la Santé.
Donc un excès de précaution qui a joué contre les vaccins ?
Oui, parce qu'on s'est aperçu que son comité d'experts était avec des experts qui avaient des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez, il y a tout ça. Après, il y a eu le problème du Mediator, parce que ça, c'est pas un vaccin, c'est un médicament. Mais le Mediator, on a vu que Servier avait des implications, même au sein du cabinet. Après, il y a la Dépakine, maintenant, qui pose énormément de problèmes, où sur la notice, il n'était même pas dit aux femmes enceintes de ne pas prendre ça au cas où elles étaient épileptiques. Donc tout ça fait que les gens maintenant sont défiants, n'ont pas confiance au niveau des vaccins.
Anne-Marie Moulin ?
Je suis tout à fait d'accord. On va pas pouvoir débattre, on est d'accord.
Non, mais après, il faut voir comment on peut modifier ça. Parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est ce débat. Parce que Marisol Touraine, moi, je l'avais interpellée en disant, écoutez, il y a un truc qui va pas. Vous pouvez pas obliger les mamans à vacciner leurs gamins sur le DTP, diphtérie, tétanos, polio, si ce vaccin n'est pas disponible. Alors, elle m'avait répondu, mais comment vous voulez que j'oblige des laboratoires privés à faire ce vaccin? Mais j'ai dit, mais ça, madame, c'est vous qui êtes ministre de la Santé. Regardez madame Ségolène Royal, quand elle était secrétaire d'État sur l'éducation nationale, elle avait dit, je suis pour la pilule du lendemain. Aucun labo à l'époque ne la faisait. Un mois après, tous les labos le faisaient. Et maintenant, on a une ministre de la Santé qui n'oblige pas les laboratoires à faire le DTP. C'est pour ça que l'arrêt du Conseil d'État est très important là-dessus.
Alors, on va revenir justement sur cette question et sur l'obligation peut-être de... Enfin, en tout cas, l'extension de l'obligation de certains vaccins. Jocelyn Rhodes, Michel Rivasi et Anne-Marie Moulin évoquaient un certain nombre, finalement, d'affaires qui pouvaient expliquer la suspicion. Cette défiance à l'égard des autorités sanitaires, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs la mettre dans un ensemble un peu plus vaste qui serait une défense à l'égard des institutions, c'est-à-dire pas seulement les institutions sanitaires, mais en gros tout ce qui est de l'ordre de la représentation.
Oui, absolument. C'est un des facteurs explicatifs qui est largement commenté et repris par les analystes qui travaillent sur ces questions. Mais quand même, je voudrais revenir sur un point. Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats et beaucoup de controverses autour de la campagne de vaccination H1N1. Mais ça n'a pas été une spécificité française. En fait, on l'a retrouvée quasiment dans tous les grands pays du monde, à quelques exceptions près. Le Canada en est une, la Suède, la Norvège en est une autre. Mais la différence entre la France et les autres pays comparables en Europe ou en Amérique du Nord, c'est que la régulation de ces controverses ne s'est pas faite d'une certaine manière. Donc on a un peu en France ouvert une espèce de boîte de Pandore et avec aujourd'hui des controverses lancinantes, de plus ou moins de bonne foi d'ailleurs, sur des aspects très différents liés à la fois à la sécurité vaccinale, à son utilité, aux doutes qui s'expriment par rapport à la différence par exemple entre vaccin obligatoire et vaccin recommandé, qui n'est pas clair pour la plupart des gens. Donc on a vraiment un révélateur de tension dans la société française. Et effectivement, si on regarde toutes les enquêtes internationales sur la confiance dans les institutions ou les autorités, la France est un des pays qui se démarque des autres pays par un niveau de confiance qui est extrêmement bas vis-à-vis des autorités. Donc ça, c'est un premier facteur, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu aussi une mobilisation très importante de groupes, d'acteurs publics, en fait, qui se sont positionnés sur la question vaccinale, alors qu'ils ne s'intéressaient pas à ces questions jusqu'à présent, et qui ont très, très largement investi, notamment la blogosphère et les médias sociaux, et qui sont abondamment exprimés sur ces questions. Aujourd'hui, si vous tapez sur Google, sur YouTube ou sur Amazon Vaccination, vous pouvez voir que la majorité des gens qui s'expriment aujourd'hui sur la vaccination s'y expriment de manière très critique, voire carrément complotiste.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce haut niveau de controverse, c'est vrai qu'il est assez important aujourd'hui par rapport à la vaccination, soit la vaccination en général, soit certains vaccins en particulier, il est lié aussi au fait qu'il n'existe peut-être pas de lieu de débat et d'expertise suffisamment indépendant pertinent pour offrir une réponse qui soit finalement indiscutable, Anne-Marie Moulin?
Je pense d'abord qu'il s'agit surtout d'un amour déçu. Je suis un peu sceptique sur l'analyse de cette défiance. Je pense que cette défiance, elle traduit un sentiment de trahison. Pendant des années, la plupart des gens étaient d'accord pour se faire vacciner. Et d'autre part, ils se faisaient vacciner dans des lieux hautement symboliques, qui étaient l'école, l'armée, le dispensaire, des lieux de convivialité où ils avaient confiance. Et c'est d'autre part, ils pensaient que le vaccin était quelque chose de bien parce que c'était sans risque, efficace à 100% et que ça protégeait toute la vie. Et voilà que tout d'un coup, ils découvrent qu'au fond, les nouveaux vaccins ont quand même quelques inconvénients, ont des effets indésirables, ne protègent pas tout le monde et ne protègent pas toute la vie. Et je pense que la crise aujourd'hui, c'est une crise d'amour déçu.
Mais peut-être aussi c'est une crise de manque d'explication, c'est-à-dire de dire effectivement, voilà, aujourd'hui le vaccin, ça répond à telle problématique et il faut essayer aussi d'expliquer le décalage qu'il peut y avoir entre la perception qu'on en a et la réalité de ce que cela produit.
Oui, mais nous avons dit qu'il faut discuter des vaccins, bien sûr on en discute, mais il faut bien reconnaître que si le principe même de la vaccination est simple, on prend un petit peu d'un microbe pour le protéger contre la maladie qu'il provoque, le vaccin lui-même, depuis la recherche jusqu'à l'arrivée dans le bras de l'enfant, c'est un processus long, c'est un peu le chemin du combattant.
il faut discuter des vaccins, mais le peut-on vraiment aujourd'hui et le peut-on dans des conditions suffisantes, Michel Rivasi?
Moi, j'étais très favorable à ce qu'il y ait un débat. Et la ministre était engagée à avoir ce débat. Alors moi, je suis ravie que vous soyez là parce qu'on va en discuter de ce débat. On voulait que ça soit vraiment un débat citoyen.
Voilà, parce que débat dans le cadre, donc je rappelle, du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination.
Voilà, on parlait de commission de concertation citoyenne. Concertation, non, et citoyenne, encore moins. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a eu la démission de Thomas Dietrich. Thomas Dietrich, je l'avais demandé de... Je l'ai rencontré. Il voulait créer vraiment une conférence citoyenne. C'est-à-dire se dire, il y a des citoyens qui se posent des questions, on peut inviter des experts, voyez, il peut y avoir un échange, etc. Et des recommandations. Ça ne s'est pas fait du tout comme ça. D'ailleurs, Thomas Dietrich a démissionné. Parce qu'il a dit, ça va être complètement phagocyté en quelque sorte par des agences qui veulent qu'on soit dans le cadre de la pro-vaccination. Bon. Il y a eu un collège de citoyens, un collège de professionnels de la santé et un collège de sachants, vous voyez, d'experts. Bon. Et là-dessus, donc, ce débat a eu lieu. Et puis, on s'est aperçu que quand les gens posaient la question des conflits d'intérêts, parce que vous voyez, quand on définit le calendrier vaccinal, il faut être sûr que les experts qui définissent ce calendrier vaccinal argumente sur des arguments scientifiques. Vous voyez, pourquoi on dit diphtérie? Vous voyez, est-ce que la diphtérie, c'est un gros problème à l'heure actuelle? Est-ce que ça peut pas être d'autres vaccins, etc.? Et là, il n'y a pas eu d'argumentation scientifique très importante. Après, les gens ont dit, mais nous, on se pose la question des adjuvants. Vous savez que les adjuvants à l'heure actuelle, les hydroxydes d'aluminium, c'est un énorme problème, du mercure qui est utilisé comme conservateur. Et bien là-dessus, toutes les études qu'avait fait M. Gherardi, qui est un chercheur au niveau de l'INSERM, qui a fait un bouquin d'ailleurs que j'encourage les gens à lire parce qu'il est très intéressant, dit, eh bien, les adjuvants à base d'aluminium peuvent provoquer des effets neurotoxiques et ce qu'on appelle la myofascie à macrophage. Ça a été balayé complètement. Après, il y avait l'histoire, est-ce qu'on peut discuter de l'obligation de la recommandation? Et quand j'ai vu les conclusions de ce débat, où tout le monde disait il faudrait mieux recommander, voyez, en étant sûr que les experts n'aient pas de conflit d'intérêts. Vous voyez, il faut restaurer la confiance pour la vaccination. Parce que moi, je suis pro-vaccination, mais avec des gens dont je suis sûre qu'ils vont nous dire des éléments scientifiques et que ça soit valable. Eh bien là, M. Fischer dit, ah ben non, il va falloir absolument vacciner sur le Gardasil, on y reviendra dessus, les jeunes filles et même les jeunes garçons, alors que personne avait dit ça, et qu'en même temps, il faudrait que l'obligation soit sur 6 vaccins ou peut-être 11.
Mais peut-être que donc, ces recommandations-là, elles sont justement le fruit d'un débat et d'un consensus. Qu'est-ce qui vous permet, vous, en fait, de dire que ces conclusions-là, même si elles vous déplaisent, elles ne sont pas le fruit, justement, d'un débat?
Parce que j'ai pris les références du Formindep, qui est une association de médecins, justement, critiques et de chercheurs, et regardez ce qu'ils disent. La concertation sur les vaccins, dont la feuille de route était de relever le niveau de confiance dans les vaccins et les taux de couverture vaccinale, s'avère un échec complet. Le rapport final est un exemple de médiocrité intellectuelle, de déontologie approximative, de transparence douteuse, et sa rédaction est la négation d'un exercice démocratique. C'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui le disent dans le cas de Formindep. Bon, c'est terrible.
Anne-Marie Moulin, là, vous êtes habillée pour l'hiver. Alors, je précise, vous avez fait partie, vous, de ce comité de orientation. Vous n'en êtes pas particulièrement la porte-parole, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait partie d'un comité qu'on adhère vraiment à toutes les recommandations. D'abord, sur ce que dit Michel Rivasi, sur le fait que c'était un débat qui était biaisé, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, ou bien vous contestez cette version?
Je voudrais dire deux choses. Je suis d'accord avec Michel Rivasi sur le fait que cette conférence de consensus n'a pas été une conférence de consensus au sens plein du terme. Une conférence de consensus, c'est quelque chose de très compliqué qui a été peaufiné au fil des dernières années, qui est très exigeant dans sa constitution, qui demande du temps, de la préparation dont nous ne disposions pas dans les délais que nous avions. Et donc, nous avions affaire à des panels qui ont été sélectionnés suivant des méthodes approuvées par les sociologues et les échantillonneurs. Et c'est sûr qu'il ne s'agissait pas d'une conférence de consensus, comme il y en a eu dans le passé, qui sont quelque chose, qui sont des mini-parlements scientifiques. Là, il y avait effectivement des comités, des panels qui ne représentaient pas un véritable parlement. Voilà pour la représentativité. Mais quant à la conclusion du rapport, qui d'ailleurs n'était pas un rapport à l'unanimité, je voudrais juste expliquer quelque chose. Il y avait en fait un choix qui était biaisé entre plus de vaccins obligatoires ou des vaccins obligatoires. Or, une des sources du problème actuel, c'est qu'en fait, on a 3 vaccins obligatoires qui ne correspondent plus à la situation épidémiologique de la France. C'est une situation incompréhensible et qui ne s'explique que par l'histoire. Et en revanche, il y a des vaccins qui ne sont pas obligatoires et qui sont recommandés chaudement, comme par exemple la rougeole. Il y a eu une épidémie récemment avec quelques conséquences graves, etc. Donc, le choix de façon anormale a été posé entre 0 obligation ou une obligation plus large pour rétablir une cohérence qu'interdisait l'histoire. Et c'est là que la décision s'est reportée vers 11 vaccins, ce qui ne manquait pas évidemment de renflammer le débat.
Oui, sachant que alors ces 11 vaccins qui deviendraient obligatoires le seraient provisoirement avec un objectif de rendre à plus ou moins long terme la liberté de choix pour l'ensemble de la vaccination, si j'ai bien lu les recommandations. Jocelyn Rhodes, comment se fait-il que sur cette question-là, on n'ait pas été en mesure, en France, d'organiser au moins un débat qui ne prête pas le flanc à la contestation sur les modalités de son organisation.
Oui, c'est vraiment un défi, c'est vraiment la quadrature du cercle, parce qu'en fait, la question de vaccination s'est énormément politisée ces dernières années. Et que du coup, on a de nombreux acteurs assez radicaux, militants, qui sont emparés de ces questions-là et qui, en toute transparence, souhaitent être écoutés, entendus sur ces questions-là. Donc, d'une certaine manière, on a d'un côté les acteurs activistes, militants, qui sont très critiques, voire parfois conspirationnistes sur ces questions de vaccination, et de l'autre, l'industrie pharmaceutique, qui, bien entendu, n'est pas légitime pour s'exprimer sur ces questions, compte tenu de ses intérêts commerciaux sur ces questions. Donc, entre les deux, on a quelques experts qu'il est facile de discréditer, d'une part parce que c'est vrai que c'est très compliqué de travailler en vaccinologie sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, et d'autre part parce que les gens qui sont complètement indépendants sont assez peu nombreux, en fait, hein, pour s'exprimer sur ces questions. Donc c'est compliqué d'animer un débat sur des questions qui sont aussi, dans lesquelles les positions sont aussi tendues et aussi radicales. Et j'aimerais quand même réagir par rapport aux propos de Michel Rivasi tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est quand même un peu fort de café de critiquer l'impartialité de la conférence nationale, conférence des citoyens, quand soi-même on organise des conférences dans lesquelles il n'y a aucun contradicteur et où les seuls experts invités sont complètement critiques vis-à-vis de la vaccination.
Alors justement,
il y a aussi un effort à faire pour que le débat soit animé de manière plus démocratique, plus équilibrée. Moi, je suis tout à fait intéressé par les arguments de Romain Gérardi. Je trouve que c'est un des rares chercheurs qui a produit des données qui méritent qu'on les discute et qu'on s'y intéresse. Mais ils sont assez peu nombreux, en fait.
Oui, mais parce qu'on ne leur donne pas les moyens financiers pour faire des études. Vous avez vu les difficultés qu'ont eu M. Gérardi, M. Autier, pour faire des études. Il va quémander et il n'a pas de fonds de l'État parce que ça ne les intéresse pas de faire des études sur les adjuvants. Et même l'OMS reconnaît qu'il n'y a pas assez d'études sur les adjuvants, que ça soit l'hydroxyde d'aluminium ou que ça soit le squalène ou que ça soit tout ce qui est à base de mercure d'un point de vue des conservateurs. Donc je trouve que c'est très grave et en même temps, alors moi ce qui m'a énormément surprise, je tiens à le dire aux gens, c'est les nanoparticules qu'on trouve dans les vaccins. Il y a eu, j'ai invité, alors on reviendra sur l'épisode là de Wakefield, etc.
Oui, mais, alors attendez, parce qu'on ne va pas comprendre de quoi vous parlez, mais on va y arriver très vite.
À l'heure actuelle, dans pratiquement tous les vaccins, vous trouvez des nanoparticules. Moi, j'ai questionné la Commission européenne, j'ai questionné l'Agence européenne des médicaments en disant « Expliquez-moi pourquoi on trouve des nanoparticules d'acier, de fer, de chrome, etc. etc. » Et ça, vous savez absolument pas les conséquences que ça peut avoir. Avant, dans les vaccins, on trouvait pas ces nanoparticules. Et c'est secret d'affaires. Et ça, je trouve ça inadmissible parce que c'est pas biodégradable, ça reste dans le corps et ça peut avoir des conséquences très importantes sur des effets secondaires et même des cancers.
Anne-Marie Molin, est-ce qu'il n'y a pas une résistance de la communauté scientifique aussi à accepter d'ouvrir parfois certains débats qui sont justement des débats d'ordre scientifique et qui remettent en cause peut-être l'efficacité ou l'absence de nocivité de certains vaccins ?
Personnellement, je ne le crois pas vraiment. Je pense que les immunologistes sont des gens trop intelligents pour ne pas savoir que le système immunitaire est une fonction complexe et que quelque part, si on la connaît mieux qu'il y a 50 ans, on ne sait pas encore très bien s'il y a un petit lymphocyte qui passait par là, n'a pas tout d'un coup aperçu un antigène qui y arrivait. Donc il est très difficile de démarquer la vaccination sur le long terme de tous effets liés à l'albumine ou à d'autres, ou tout simplement aux antigènes utilisés. Et c'est là que le bât blesse. Car des études à long terme, des études épidémiologiques à long terme, c'est non seulement coûteux, mais ce n'est pas très porteur pour les chercheurs. Ce n'est pas tout à fait exact. Romain Guérardi n'a pas eu de fonds pour faire ses recherches. Ouais. Mais c'est vrai que de façon plus générale, les recherches sur les vaccins, les effets des vaccins à long terme, en particulier sur les maladies auto-immunes, demandent des études de plus de 20 ans. Pour un chercheur qui veut faire sa carrière, c'est suicidaire.
Alors, Michel Rivasi, vous avez parlé du cas Wakefield, Andrew Wakefield, qui est un médecin britannique, enfin médecin, j'ai envie de dire ancien médecin, dans la mesure où il a été radié du Conseil de l'Ordre des médecins britanniques, qui l'an dernier a réalisé un documentaire qui s'appelle Vaxid, qui porte justement sur la question de la vaccination.
My oldest son Ian was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that.
The relative risk of receiving an autism diagnosis was astronomical.
Wow. Voilà, un médecin qui a fait parler de lui il y a quelques années parce que il avait publié une étude dans une revue
Lancet.
The Lancet, donc une revue voilà très connue dans laquelle il faisait un lien entre le vaccin de la rougeole oreillon rubéole, le ROR, je sais pas comment on dit, ROR ou ROR, et l'autisme. Bon, il se trouve qu'il y a eu des contre-expertises qui ont, semble-t-il, démontré que cette étude-là n'avait pas de valeur scientifique. Donc depuis, il a été un peu mis au ban de la communauté, en tout cas au moins dans son pays. Vous avez essayé, il y a quelques jours de cela, d'organiser une rencontre avec lui pour diffuser son documentaire, une à Bruxelles, une à Paris, et vous n'avez pas pu.
Interdiction totale. Écoutez, vous savez, j'ai beaucoup lutté contre le lobby nucléaire au moment de Tchernobyl, vous savez, où j'avais créé un laboratoire indépendant. J'avais jamais vu ça. J'invite Monsieur Wakefield, en tant que réalisateur de ce film, si ce film pose problème, qu'il soit attaqué en justice. Il pose un problème qui m'intéressait, c'était les conflits d'intérêts qu'il y avait au niveau de l'agence américaine. Et là, il y a à l'intérieur de CDC, cette agence américaine, des gens, et notamment une personne, qui indiquait qu'il y avait des données qui avaient été cachées, des documents qui avaient été détruits, qui faisaient une preuve, enfin un lien, parce que même Wakefield, il disait, il se peut qu'il y ait un lien de causalité entre le ROR et l'autisme. Et là, il disait, ce whistleblower, ce lanceur d'alerte à l'intérieur du CDC, qu'il y avait un lien entre le ROR et l'autisme. Parce qu'il y a une explosion d'autisme au niveau des États-Unis, un cas sur 45 à l'heure actuelle. Donc moi, je connaissais le lien entre l'autisme et les pesticides. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant de voir ce problème de conflit d'intérêts parce qu'on a la même chose en Europe, nous, sur l'Agence européenne des médicaments, qui est attaquée sur l'histoire du Gardasil. Puisqu'il y a des médecins danois qui ont demandé une étude à l'Agence européenne des médicaments, que là-dedans aussi, on leur a fourni un document qui est différent de la conclusion de l'Agence européenne des médicaments, qui dit qu'il n'y a pas de relation de cause et effet entre le Gardasil et des effets secondaires divers et variés. Donc je trouvais que c'était bien d'inviter, de faire passer ce film, d'inviter cette personne.
Et vous n'avez pas pu ?
Là, mais il y a eu des lettres, il y a eu des associations anti-vaccination, des associations pro-vaccination, qui ont fait pression au niveau des députés européens pour interdire l'accès de cette personne-là et de son film au niveau du Parlement européen. Même chose à Paris, où le cabinet de Madame Hidalgo a interdit à ce qu'on passe le film dans la mairie du deuxième. Mais moi j'étais, alors on me dit, mais il n'y avait pas de contradicteur. J'ai invité l'Organisation Mondiale de la Santé. J'ai invité le CDC, parce que le CDC c'est l'Agence Européenne sur les maladies infectieuses. Et j'ai dit, on va parler de cette problématique-là sur les études. Parce que vous vous rendez compte, ces grosses agences, c'est pas les experts des agences qui font les études, c'est les laboratoires qui ont les données et qui font l'analyse. Ça c'est complètement inadmissible. Et c'est tellement grave de savoir que s'il y a un lien entre ça et l'autisme, ou s'il y a un lien, comme on l'a eu au niveau du ROR, par exemple en Angleterre, entre ça et les méningites, d'ailleurs le vaccin avait été supprimé, c'est quand même important que nous, quand on a des enfants, il faut être sûr que si on donne un vaccin, moi je suis pour la sûreté des vaccins.
Oui, mais Michel Arrivé,
mais
vous
aussi
dites,
pour
s'il
la
y a,
restauration
vous dites,
de la confiance vis-à-vis de la vaccination.
Vous dites s'il y a un lien entre ce vaccin et l'autisme. Est-ce que le « si » est encore tenable aujourd'hui, Anne-Marie Moulin? Ou bien est-ce qu'on a des données suffisamment fiables et définitives pour dire « il n'y a pas de lien » et donc ce que dit cet ancien médecin ne peut plus être propagé?
Moi, je suis gênée par les affirmations quant à la montée de l'autisme, parce que je sais trop bien combien les catégories en médecine évoluent. La catégorie d'autisme a tout d'un coup subi une inflation et, à mon avis, elle recouvre pas seulement un changement dans la pathologie, mais aussi un changement dans la façon dont nous concevons cette pathologie. Des troubles du comportement qui sont tout d'un coup regroupés sous la catégorie autisme, alors qu'à mon avis, ils pourraient être différenciés. Moi, je voudrais dire quelque chose de tout simple. C'est que je pense qu'il faudrait revenir au débat de fond qui est équilibrer les bénéfices et les risques. Et en matière de vaccins, pourquoi ne pas admettre franchement qu'il y a des effets indésirables, qu'il faudrait les surveiller avec attention, y compris sur le long terme, mais que par contre, il faut bien avoir une idée claire des bénéfices qu'on peut en attendre.
Mais par ailleurs, est-ce que ça vous paraît sain d'organiser des débats contradictoires, même si là, il n'a pas pu avoir lieu faute de combattants, avec des personnes qui sont extrêmement controversées aussi dans le milieu scientifique? Est-ce que ça prouve peut-être que justement, on organise des débats et ne pas le faire, ça ajoute peut-être à la suspicion qu'il peut y avoir justement contre les vaccins?
Mais bien entendu, moi je suis tout à fait choquée quand un débat, et ce n'est pas seulement sur ce sujet que des débats sont écourtés ou sortent du lieu où ils devaient avoir lieu, et je suis très choquée parce que si je suis peut-être pour l'obligation des vaccins, je suis pour la liberté de parole.
Jocelyn Rhode.
Oui, alors je crois qu'il faut quand même préciser une chose qui n'a pas été faite à ce stade. L'affaire Wakefield est quand même un cas d'école de fraude scientifique. Et ça, ça n'a pas été dit. Il faut que ce soit dit clairement. Il a été radié de l'ordre des médecins pour manquement à l'éthique.
Le docteur Joyeux aussi, Philippe Even aussi. Pour
oui,
moi,
mais
ça,
là,
c'est
parle
un critère,
de, on parle de Wakefield. On parle de Wakefield.
Oui, enfin,
donc, il a émigré ensuite aux États-Unis où il est devenu un proche de Donald Trump. Aujourd'hui, il fait partie de ses conseillers sur ces questions. Je pense que c'est quand même un personnage qui est extrêmement sulfureux, qui est extrêmement sulfureux, je veux dire, il y a quand même une enquête qui a été faite par un journaliste indépendant qui s'appelle Brian Deer, qui a étudié les données, etc., et il s'est avéré que les données étaient truquées. Et là, je veux dire, ça, il y a un consensus quasiment absolu dans la communauté scientifique pour dire qu'aujourd'hui, le lien entre autisme et vaccination contre l'or peut être écarté. Moi, je suis mal à l'aise parce que je ne suis pas un médecin, mais je sais quand même comment sont construites les preuves scientifiques. Aujourd'hui, si on regarde la littérature sérieuse, il y a 6 études indépendantes de l'industrie pharmaceutique qui ont été publiées depuis, et aucune de ces 6 ne montre un lien possible entre autisme et vaccination contre l'or. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on maintienne des débats qui sont un peu sur le plan scientifique dépassés, mais ça me paraît un peu difficile quand même. Il y a peut-être d'autres enjeux qui méritent qu'on s'y intéresse, et notamment sur ces questions de vaccination. Là, je partage en partie le point de vue d'Anne-Marie Moulin. C'est vrai qu'on a été un peu paternaliste jusqu'à présent. En gros, on disait aux gens, la vaccination c'est bien, la vaccination c'est juste, et on n'a pas pris la mesure du côté des pouvoirs publics, de l'évolution sociétale, qui était que les gens ont besoin de comprendre pourquoi la vaccination est importante éventuellement et pourquoi c'est important aujourd'hui de se faire encore vacciner.
Mais ça veut dire que pour vous, Jocelyn Rhode, c'est avant tout un problème de communication publique et pas d'ouverture, de la concertation et de la discussion et des contributions peut-être autres que des contributions scientifiques.
Alors effectivement, il faut repenser cette communication, mais je pense que justement, la concertation citoyenne autour de la vaccination était un moment qui aurait permis, qui peut-être permettra de repenser cette communication publique autour de la vaccination, et puis essayer d'ouvrir... Moi, j'ai envie de dépassionner le débat et revenir à des choses, des éléments de preuve, parce que c'est facile de dire qu'on n'est pas anti-vaccin et de dire « Ah, mais regardez tout ce qu'on trouve dans les vaccins, etc. » Ça me paraît oublié. En fait, le débat, il est cadré autour du risque des vaccins, mais jamais autour de la question du risque-bénéfice. La question des bénéfices, elle doit être toujours posée. Toujours les risques relatifs liés à une vaccination doivent être toujours mis en perspective par rapport à ces bénéfices qui, mon point de vue, sont relativement incontestables pour de très nombreux vaccins. Alors, je ne parle pas de tous les vaccins.
Michel Arrivasi, c'est vrai qu'en invitant Andrew Wakefield, personnage quand même très controversé, vous vous doutiez que vous n'alliez pas contribuer à dépassionner le débat sur la vaccination.
Moi, je voulais répondre à plusieurs choses. Effectivement, il y a beaucoup de complotisme lié au problème de la vaccination et beaucoup d'associations anti-vaccinales. Si on n'invite pas quelqu'un comme ça, avec justement des experts, moi j'avais fait une liste et vous savez que dans la conférence, je lui ai posé toute une série de questions parce qu'il était attaqué sur des conflits d'intérêts, sur son étude, sauf qu'il y a eu quand même un procès et que ses copains, ils ont été réhabilités. Vous voyez, parce qu'on disait il y a eu un problème d'éthique, parce qu'il avait fait des prélèvements au niveau des copains à son fils pour avoir des témoins, etc. Il s'est expliqué là-dessus. Maintenant, vous savez, le poids du lobby pharmaceutique qui est énorme. Et moi, je l'ai fait venir sur le film parce que je vous dis, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre ce qui est dit au niveau de l'agence américaine et ce qui est fait au niveau de l'agence européenne. Si les gens sont en désaccord avec son film, mais qu'ils attaquent son film, qu'ils fassent un procès sur son film, alors pourquoi ils veulent pas le faire, le procès? Parce que ce William Thompson, qui est le lanceur d'alerte, qui est à l'intérieur du CDC et qui a fourni les données pour dire qu'il y avait eu un trucage des données par rapport à ce lien, que je sais pas moi, mais je veux pas moi, je n'affirme pas qu'il y a un lien entre le ROR et l'autisme, je me pose des questions. Bon, eh bien, si il est convoqué à un procès, il pourra parler. Tant qu'il n'est pas convoqué à un procès ou au Congrès américain, il ne peut pas directement parler. Sur Trump, moi aussi, je ne sais pas du tout quelqu'un qui est ma référence, Trump, puisque j'arrête pas de l'attaquer par rapport à ses prises de position. Sauf que M. Trump a un enfant qui est autiste. Et que lui, il s'est toujours posé des questions sur le lien entre l'efficacité des vaccins et des maladies susceptibles. Et il a été, en quelque sorte, ils ont mis quelqu'un pour regarder l'efficacité des vaccins. C'est pour ça qu'au moins, là, il est écouté. Bon, maintenant, moi, je trouve que si on prend du recul par rapport à ça, et si on veut qu'il y ait un vrai débat, il ne faut pas dire, eh ben, on ne fait pas venir cette personne ou on ne fait pas passer ce film. Moi, je suis pour qu'il y ait des experts indépendants qui mettent, moi, je trouve que son étude, elle est faible. Par exemple, l'étude qu'il a faite sur 12 gamins, et je lui ai dit en face. Mais je veux dire que c'est pas en excluant ces gens-là, vous ne faites qu'enflammer, si vous voulez, le côté complotiste des gens.
Anne-Marie Moulin ?
Non, je suis tout à fait d'accord, mais en évoquant le sort des parents qui ont un enfant autiste, je pense qu'il faut comprendre leur angoisse et voir que quelque part, cette angoisse peut être en quelque sorte atténuée ou transformée dans la mesure où tout d'un coup, ils ont un objet contre lequel se battre. Mmh. Et ça, c'est quand même un biais énorme qui fait que c'est assez difficile de discuter sur le sujet avec des parents d'enfants autistes, ce que je comprends tout à fait. Et je voudrais attirer l'attention à propos de l'angoisse des parents qui viennent se renseigner sur les vaccinations, sur le fait que, quelque part, cette obligation de l'État contre laquelle on s'élève tant, quelque part, c'était pour beaucoup de gens un rempart. C'est-à-dire qu'ils se disaient, si l'État oblige, ça veut dire que quelque part derrière, il assume la gratuité, il assume l'indemnisation des éventuels effets indésirables, etc. Il prend ses responsabilités. Et je dirais qu'aujourd'hui, la crise de la vaccination, c'est une crise de responsabilité de l'État qui se défausse vis-à-vis de l'école, des médecins qui n'ont pas le temps. Car finalement, on en revient toujours au même. La vaccination n'est pas absolument universelle, nous le savons de plus en plus. La vaccination ne marche pas très bien, voire même peut être dangereuse chez les immunodéprimés, chez les femmes enceintes, chez les vieillards. Il faut donc quelque part quelqu'un qui assure l'adaptation du vaccin à chacun.
Anne-Marie Moulin, si je me pose des questions aujourd'hui sur la vaccination et que je cherche des réponses dont je puisse avoir la certitude que ce seront des réponses incontestables, est-ce que j'ai un endroit où aller? Est-ce que ça faisait partie justement des réflexions que vous avez menées avec le conseil d'orientation? Enfin, conseil d'orientation, je ne sais plus si c'est exact, le comité d'orientation.
Bien sûr, et malheureusement c'est un lourd chantier. Santé publique France est supposée créer un site sur lequel tout le monde pourra s'exprimer, où il y aura une information fiable et multivariée, et où eux aussi les gens pourront exprimer les effets secondaires qu'ils ont pu ressentir. Seulement cela suppose non seulement un enregistrement.
Ce site n'existe pas aujourd'hui.
Il n'existe pas encore.
Non, mais c'est ça qui est finalement assez incroyable.
Incroyable.
Il est projeté, et là, nous sommes dans une période d'incertitude politique, donc je ne sais pas si le ballon sera repris.
Alors moi, j'avais des propositions à faire. Un, il fallait absolument...
Gardez-en une, parce qu'il nous reste 10 secondes. Alors choisissez la plus importante pour vous.
Il faut un comité d'experts indépendants qui, justement, établisse le calendrier vaccinal, fasse les expertises sur les études cliniques, voyant fin quand on demande l'autorisation de mise sur le marché. Et que quand on veut recueillir les données qui sont données, d'ailleurs, par les laboratoires, ça soit des experts indépendants. Moi, je ne fais pas confiance à des monsieur Floret qui était président du comité de vaccination, s'il travaille avec Sanofi, GSK, etc. Il faut arrêter avec ça. On a besoin de restaurer la confiance. Et ça passe par nos institutions.
Ouais, les recommandations, vous pourrez trouver en lien sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Anne-Marie Moulin, Michel Rivasi, Jocelyn Roge. J'en profite pour remercier également nos camarades de France Bleu Mayenne à Laval, ainsi que l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Élise Le. Demain, ce sera le Club des idées. Nous poserons la question du maintien de l'ordre et de la violence légitime. Ce sera à partir de 18h20.